Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Avant de passer un bon moment, n'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023. On fait la tournée des Zéniths avec Navo. Navo sera en première partie. Ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas. Et venez, c'est les dernières de Une Bonne Soirée. Après, il n'y en aura plus. Beaucoup de gens m'ont dit, putain, on a raté Pulsion. Ne ratez pas Une Bonne Soirée. Janvier, dans toute la France. Et on fait 2 dates en Belgique aussi. Bisous.
Bonjour à tous. Bienvenue dans Un Bon Moment. Écoutez, l'émission va commencer dans pas longtemps. On est avec Vincent Delerme. Navo finit son multi-blind test. Je finis les Chevaliers du Zodiac. C'est vrai qu'on est un peu sur France Inter, mais le beau France Inter, le France Inter qui fait vivre, le France Inter qui donne envie de se lever le matin, le France Inter.
Vous êtes une bobo gauchiasse, vous aimez la radio. Tout de suite, une chronique d'un autre bobo.
Qui va vous dire que votre mode de vie détruit la planète. Non, mais toutes les musiques de Vincent Delerme, elles donnent envie de prendre le train. Comment ça va, Vincent Delerme ?
Ça va bien, mon Kian. Ouais. Kian.
T'es heureux ?
Bah ouais, je suis très content. Ça,
ouais,
tu sais, moi, je fais, là, en plus, je fais rien depuis un temps fou. Donc,
oh, tu fais une,
faire une émission.
Je t'ai vu faire quelques photos, là.
Oui,
tu vois, un peu.
Mais
les gens te connaissent musicien, te connaissent compositeur.
Un micro comme ça, tu vois.
Te connaissent live. Mm-hmm. Star du live. On appelle
star
ça une star du live.
Live.
Mais photographe aussi.
Ouais, bah c'est venu un peu en même temps, tu vois, parce que c'était genre. Au bout de 3 tournées, tu passes dans des théâtres et les gens te disent ah, ça fait plaisir, vous êtes déjà venu il y a 5 ans, puis t'as oublié. Donc tu dis, ah non, mais là, c'est
oui, c'est vrai qu'on des fois on oublie. Ouais.
Et la photo, c'était pour ça au départ. Je me disais, ah, c'est pas possible, là. Ça fait que 6-7 ans que je suis sur le circuit. Et déjà, parce que c'est quand même toujours fort un concert et tu comprends pas comment tu peux oublier un lieu. Et en fait, c'est assez visuel. Donc les photos, c'était aussi c'était ça. Et puis c'était. Aussi ce truc que les gens, en revenant de tournée, ils te disent « Ah, ça doit être incroyable, la tournée. »
Est-ce que ça l'est ?
Ben justement, c'est ce truc-là, j'ai souvent dit ça, qu'il y avait... T'as un peu 2 écoles. T'as des gens qui pensent que c'est quand même très, très chiant parce qu'ils te disent « Ouais, mais vous dites c'est super, mais en fait, vous refaites le même truc à Dijon, à Toulouse, ça se ressemble tous les soirs. » Et puis, t'as d'autres gens, à l'inverse, qui pensent que c'est le feu tout le temps, que c'est une dinguerie permanente. Et c'est un peu ni l'un ni l'autre, et c'est beaucoup, en tout cas... Surtout moi, quand j'ai commencé, j'étais tout seul sur scène au piano. C'est beaucoup l'atmosphère.
Tu partais tout seul ?
Non, avec une équipe technique. Mais bon, équipe technique, quand t'es tout seul sur scène, tu dois connaître aussi.
Oui.
Bah ouais, t'arrives souvent comme une fleur une fois que tout le monde a bien bossé toute la
toute
journée.
La journée, ouais.
Toi.
Parce qu'il faut savoir qu'il faut tout installer à chaque date. C'est pas genre la scène est ouverte, on monte sur scène et c'est fond. C'est bon. Il y a vraiment,
ouais.
Il faut installer, il faut régler le son, il faut régler la lumière. Il y a beaucoup de travail.
C'est ça. Et quand t'as des scénos un peu lourdes avec des vidéos et tout, et que t'es pas ce qu'on appelle à -1, c'est-à-dire t'arrives la veille, l'équipe technique, quand c'est des gros spectacles un peu subventionnés, des fois ils peuvent arriver à -7. T'as des spectacles qui s'installent,
oui,
des trucs. De nouveaux cirques, ou tu vois,
ah oui, d'accord,
très visuel.
Ah ouais, ouais.
Mais aussi, à mon avis, des trucs tu vois, de Johnny, quoi. Là, il pouvait arriver vraiment avant. Et nous, à chaque fois, on essaye d'arriver le jour même, mais avec un kit qui est quand même assez compliqué souvent, parce qu'il y a toujours de la vidéo qui part un peu dans tous les sens, des différents écrans et compagnie.
Mais est-ce que toi, tu prends du plaisir sur scène ? Est-ce que tu vois, tu prends tous les soirs du plaisir ? Ou est-ce que c'est un mythe de... Parce que, tu sais, la tournée, c'est Dijon, tu dis, tu joues
ouais,
à Dijon,
ouais.
Tu joues à Bordeaux, tu peux faire un excellent Dijon et le pire Bordeaux de ta vie. Et c'est assez vivant, même pour les artistes.
Ouais,
j'essaie
sûr,
un peu de
sûr.
Démystifier un
non,
peu
non,
ça.
Bien sûr. Honnêtement... Sur scène, ça m'arrive jamais de me dire « Ah là là, c'est génial !» Tu te dis, comme tu vois, les spectacles, t'as aussi un truc où tu vises le fait qu'à la fin, tout le monde soit super content, que
bien sûr.
Et tout. Donc, régulièrement, en tout cas, pendant...
Attends, je suis venu manger, moi.
Pendant les concerts, souvent, tu te dis « Bon, là, jusque-là, c'est pas mal, ça tient, faut pas relâcher le truc, même en rappel. » Et après, par contre, c'est un plaisir énorme d'avoir fini le spectacle, de se dire ah, putain c'était cool, c'est... jusqu'au bout ça.
T'aimes bien l'après spectacle?
Ouais, j'adore l'après.
Tu relâches.
Et l'impression que le spectacle a été comme t'avais envie, parce que tu parles de Bordeaux. À Bordeaux, par exemple, on fait souvent une salle qui s'appelle le Fémina.
Fémina, c'est une des meilleures salles de France.
Ouais, t'as pas envie de la rater, quoi.
Ah non. Une salle de 1000 places, en ouais. plein centre de Bordeaux, qui est. D'ailleurs, merci les Bordelais, c'est à chaque fois. mais non, mais c'est tellement fou à chaque fois. Ça. Mais non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
On embrasse après, les Bordelaises chaque Bordelais.
Salle, pour le vin aussi. Vois,
bah, c'est vrai que le vin, ils ont fait du vin à Bordeaux.
Ouais, ouais je crois.
Ils font du vin.
Je me demande si vous vous trompez pas.
Ah, c'est peut-être à côté de Bordeaux alors. Parce qu'à Bordeaux, je crois que je n'ai pas vu de vigne. Je crois que c'est peut-être à côté de Bordeaux.
Ah ouais, autour de Bordeaux.
Autour de Bordeaux. Merci, autour de Bordeaux.
Tu vois, Fémina, tu as même cette petite avancée. Mm. Et tu sais qu'à la fin, si ça s'est bien passé, tu vas pouvoir t'avancer, te faire applaudir et tout.
Nous, on a fait le tour des arrières de salles de spectacle avec une petite piémontaise. avec Navo. On a fait en elle le tour des pires photos d'après-spectacle.
Ah oui. Ouais.
Des petits extraits, mais c'est pour vraiment dire, regardez, là c'est le feu la tournée, là on vient de faire une grosse standing ovation et là, attention,
bah,
on brûle la vie, ouais, on brûle la vie par les deux bouts à ce moment-là, avec une petite piémontaise derrière, un petit c'est rouleau
bien.
De jambon.
Tu vois bien, et plus ta salle est grosse, plus souvent t'as ça, hein. Plus ça semble incroyable et tout, plus derrière c'est un préfabriqué, et ça t'as assez peu ça dans des petits théâtres pour être franc, parce que... ouais, c'est en plein milieu de la ville, que du coup il y a des loges un peu mimiche et tout.
20 ans.
La taille humaine, ouais, tu sais, puis ils connaissent le restaurateur à côté.
Ouais,
il
ouais,
dit, ok, je fermerai
ouais,
à 1h du mat pour Vincent Delerme.
Puis t'arrives, si tu dis, où est-ce qu'on peut aller après? Ah, bah vous avez ça, ça ferme à telle heure. Donc, ouais. Les gens, ils savent te coacher, ça fait plus Airbnb que.
Ça m'est déjà arrivé de faire. Des fois, je dis à l'équipe, allez manger, parce que moi, je fais des dédicaces, et, ça,
ah,
et
oui.
après, du coup,
ah, bah, oui.
t'as plus que la pizza. 20 ans de carrière quasiment.
Mais oui, absolument.
T'as toujours le track?
En fait, j'ai plutôt le track sur les débuts de tournée, quand tu sais pas trop où va ton spectacle, justement, comme à chaque fois que j'ai toujours voulu qu'il y ait...
Faut vraiment aller voir Vincent Delerme sur scène, parce que c'est, l'album, c'est une chose. À chaque fois, quand tu sors l'album, c'est toujours une expérience. Mais sur scène, c'est redécouverte de trucs, c'est très cinématographique. Il y a beaucoup de belles lumières, il y a des beaux jeux, c'est très intimiste. Et c'est surtout très marrant. C'est ultra marrant, Vincent, sur scène.
Oui, oui, c'est le mystère de la vie, en fait. C'est moi, j'ai toujours eu cette double truc, les gens qui viennent voir les spectacles qui me trouvent marrant et tout, et les gens qui connaissent pas, qui disent oh là là, ce mec là, c'est pas hyper marrant justement. Et c'est en fait, quand j'ai commencé, ça m'emmerdait vraiment ce truc là. Je me disais, ah, c'est pas possible, il y a un malentendu, faut le dissiper. Et puis je m'y suis attaché finalement parce que.
Surtout que c'était clairement un malentendu du coup. Mais, parce
ouais,
qu'en fait,
mais
t'as commencé avec Fanny Ardant,
ouais.
Les morceaux étaient beaucoup plus marrants. T'as quasiment
plus
de
second degré quand même.
Ouais, ils étaient marrants, mais comme j'étais tout seul au piano en promo, tu sais, tu peux rien. Si tu vas faire un piano-voix dans une émission de Daniel Lombroso, t'as toujours. T'es un peu le petit canard quand même qui. Et puis tu vois comment je me tenais, comment je faisais pas la gueule, mais j'étais un peu à me dire, bon, je suis là, mais j'y suis pas en même temps. Donc, c'est assez tôt, c'est venu ce truc-là. Et puis après.
Je trouve quand même qu'il y a une opposition entre le fait que plus ça va, plus les gens disent Ah, Vincent Delerme, il est
ah,
marrant,
oui.
et plus
ah,
ça
oui.
va, moins t'es morceaux sont marrants.
Oui,
t'es
oui,
marrant sur
vrai.
Scène,
c'est
mais
vrai.
Pas dans tes albums. Il n'y a quasiment plus aucun morceau marrant.
C'est vrai. Mais au bout d'un moment, c'est aussi parce qu'il y a quand même plus de gens qui sont venus voir justement les spectacles. Et puis, qu'il y a toujours ce truc-là, quelqu'un qui dit Ah, mais moi, on m'a filé une place parce que ma voisine est tombée malade, je suis venu. Et puis en fait, c'était pas comme je pensais que ce serait. Donc, finalement, avec les années. Un truc qui
se en plus, ouais, c'est très surprenant parce que je trouve que tu as campé un personnage justement un peu parisianiste à un moment donné, un personnage un peu parisianiste dans le mauvais sens du terme, tu vois, un peu côté genre un peu froid. Et quand on te voit sur scène, on découvre, on se dit, mais c'est trop débarre, il est trop marrant en fait, il a trop de secondes de
vie.
Je
pense même pas qu'il a développé un personnage.
Non,
je pense qu'il y a eu une confusion entre le fait qu'il n'est pas parisien et qu'il aime Paris et que les gens l'identifiaient comme un parisien en disant il parle que de Paris. Alors qu'en fait, c'est bizarre. C'est
complètement normand.
C'est comme un Français qui n'arrête pas de parler des États-Unis. Tu dis pas, arrête de faire le carry.
C'est vrai.
Non, mais ceci dit, c'est vrai que c'était pas facile à lire. Mais sur le premier disque, il y a plein de chansons qui se passent dans des rues de Rouen.
Ouais,
et
bien.
Je me dis, ah, là, si je mets rue Beauvoisine, personne ne va connaître le nom.
Dédicace
donc j'avais,
à Rouen.
Rue Beauvoisine. Et alors, du coup, non, j'avais beaucoup ce truc-là de me dire, bon, faut rendre le truc un peu neutre. Donc je vais mettre une rue de Paris. Et puis moi, j'étais fasciné par Paris. Je regardais. Plein de films, j'adorais la mythologie, du métro, des cafés, de tout ça.
Est-ce que t'as encore le track, du coup, tu me dis juste
ah
en,
oui,
début, en début de spectacle, mais à l'époque, quand t'as commencé la scène, t'étais un mec traqueux ou pas?
Assez vite, en fait, comme j'étais tout seul sur scène, la seule relation que j'avais avec des gens, c'était l'équipe technique. Et je savais que si je voulais les voir un peu, passer du temps avec eux, fallait manger avec eux avant le concert. Donc, parce que si tu manges de ton côté, après, bon, bref, tu les vois jamais, en fait, entre les... et après, ils démontent et compagnie. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment pas avoir le track, parce que si t'as le track, tu peux pas bouffer avant. Faut se forcer un peu. Les premières fois, tu diras, t'as pas super envie de manger avant.
C'est vrai. Ça, bah, tu peux pas, d'ailleurs, ton estomac se bloque.
Bah, en fait, si, c'est, du coup, c'est physique. J'ai voulu ça, et puis maintenant, j'ai toujours mangé. Je mange toujours avant les concerts.
Un petit bout
qui te met pas mal après pour faire les signatures et tout ça, parce que du coup, t'as pas besoin de retourner. Tu vas directement voir les gens.
Ouais, t'es pas là au bout de 5 dédicaces, putain, j'ai faim là.
Ouais, c'est ça. Oui, j'ai peur au début parce que comme je veux qu'il y ait des trucs de succession, de timing, de voix off qui partent,
très construit,
de
tableaux, ouais, bien
sûr. Et compagnie, c'est super une fois que c'est bien, que ça tourne. Mais par contre, au début, quand ça tourne pas, c'est vraiment très poussif, quoi. Tu dis, ah ouais, d'accord, il a voulu faire ça, il a voulu faire un effet. Avec... Et donc ouais, les premières dates, puis tu te dis, tu fais un peu le malin quand tu veux faire des spectacles comme ça. C'est-à-dire, tu fais un peu le mec qui veut faire un truc mieux que les autres, enfin qui veut faire différent des autres. Donc ce truc-là te met dans un petit stress de dire, oh là, putain, ça peut vraiment être pitoyable aussi. Donc, et après, une fois que ça tourne, que tout le monde est, qu'on est raccord avec l'équipe technique.
Comment tu fais semblant que t'as pas le track quand t'as le track?
Bah moi, le truc qui joue pour moi, c'est que je suis pas censé avoir une technique vocale de malade mental. Donc si à un moment donné je déglutis ou tu vois, ça, les gens ils disent pas, oh là 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 là, ce soir de l'air mis à le track.
T'as jamais annulé une date?
Mais non, t'as vu, je t'ai dit ça parce que c'est ma fierté. Ce truc-là, ouais, j'ai jamais annulé de date. Pourtant, il y a des fois.
Je lis texto que tu m'as envoyé. Oui. Tu m'as dit.
Je n'ai jamais. Merde, t'as annulé une date, pas moi.
C'est vrai. Je n'ai jamais annulé une date que j'ai de la fièvre, de la toux. Ou un jour, je me suis chié dessus sur scène. C'était très humiliant. Ouais. Ça coulait depuis mon tabouret. Je n'ai pas annulé quand même.
C'est
Vincent Delerme.
Texto de Johan Diniz.
2020. Oui, c'est vrai, le pauvre, ouais. Le pauvre. Mmh. Johan Diniz qui est un coureur exceptionnel d'ailleurs.
C'est un mec de l'Est, ça.
Exceptionnel. Mmh, ouais. Le gars a un courage et un mental de ouf. Et,
bah, oui.
Et, ouais, ça, c'est dur.
Blague
ça, c'est
à part, gastro, j'ai fait gastro et gastro, c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'en fait, quand tu as une gastro, tu n'as qu'une envie. C'est d'être tout seul, de serrer la mâchoire, tu vois, et là, t'es devant des gens et tu dois tout le temps faire ça comme ça, donc tu vois, tu sors deux, trois fois pour... Voilà. T'as pas connu ça?
Non, ça va, non, je suis assez...
Non, mais je trouve ça, ce truc-là, ça m'a toujours épaté de me dire, même quand j'étais plus jeune, tel mec, tel chanteur, il sait que, quoi qu'il arrive, le 18 janvier à 20h48, il sera...
C'est l'anniversaire de ma mère.
Et tu vois,
c'est l'anniversaire de la mère de Navo.
C'est
ouais.
Pas vrai. Ouais. Oh, trop fort.
C'est au moment où vous allez servir les huîtres, normalement.
Voilà,
au début.
Bah, il est là. Ah, il sait qu'à le 18 janvier, il est là pour l'anniversaire de Martine.
Bon. Non, mais c'est fou, parce que dans la vie, il y a plein de trucs que tu annules. Il y a plein de fois où tu dis, ah, désolé, on peut pas venir. Mais là, c'est quand même un truc qui te tient. Et c'est même pas une histoire que tu as un contrat, que tu dois y aller. C'est juste mental. Tu sais qu'il y a des gens qui ont pris des places et tout. Quoi qu'il arrive, t'y seras.
Ça, il y a un truc qui rentre, avant de rentrer en tournée, et ça je dis pour les jeunes artistes qui nous regardent, je sais pas, il y a un truc, tu dis, vraiment on est parti sur 4 mois, et ça fait 4 mois dans ma tête, ça fait 4 mois, il va falloir tenir, ouais. Et ton cerveau se met à visualiser 4 mois de ça va être sport, quoi.
Ah oui, oui. Bah, de toute façon, tu te programmes vachement mentalement, parce que moi, quand je suis pas en tournée, je trouve ça dingue d'aller voir un spectacle, un mec qui monte sur scène, je lui dis, putain... incroyable quoi, l'énergie qu'il faut et tout, alors que quand t'es en tournée tu te dis pas, tu vois pas du tout le truc comme ça, mais là tu me dirais ce soir,
quand
vas-y,
quand je vais voir tes spectacles je me dis putain incroyable l'énergie du gars quoi.
Non, mais c'est ça, tu me dis, tu me dirais tu fais l'Olympia ce soir, je dis bah non je peux pas, alors qu'en fait techniquement tu peux t'asseoir à un piano et chanter.
Ah oui, il y a une préparation.
J'ai précisé mon idée.
La nouvelle génération, comment on peut faire découvrir Vincent Delerme à la toute nouvelle génération qui nous regarde sur YouTube?
Bah sur YouTube, tapez Vincent Delerme.
Il y a un morceau que tu kiffes, toi, Navo?
Ah ouais, il y a trop de morceaux que je kiffe.
C'est ça que j'aimerais, non, que, plus, j'aimerais que tu me parles un peu de ton amour.
Faut pour pas, les je pense qu'il ne faut pas découvrir Vincent Delerme à l'arrache entre deux vidéos YouTube en écoutant un morceau.
Exactement.
Je pense qu'il faut prendre...
ordonnance.
Ouais, c'est ça. En fait, il faudrait peut-être faire un quiz, comme dans Téléstar, tu vois, avec des triangles, des carrés, des ronds. Tu donnes ton état mental, tu vois. Si genre, t'es là, t'es en train de te dire, ça fait un moment, je suis avec ma meuf, t'écoutes Les Amants Parallèles, tu vois, c'est pas long, c'est quoi, c'est 40 minutes l'album?
Non, 7 mois même.
35, t'as un petit concept, tu vois. Je saurais pas dire par quoi attaquer, c'est par personne. C'est bien plus riche, tu vois. C'est mais pas c'est genre, écoute ce hit de Vincent Delerme, tu vois.
Ouais, moi je suis pas très bon, de toute façon.
Le feat avec DJ Snake que t'as fait, qui est super.
Ouais. Bah, tout ce que j'ai fait avec Jimmy Iovine, ouais. Mais du coup, non, c'est plutôt que j'ai toujours ce truc-là, sur 2-3 minutes, t'as des gens tu fais dans les émissions, tu les vois, des chanteurs qui arrivent et tu te dis putain, en 3 minutes, ils arrivent à montrer exactement tout ce qu'ils savent faire et tout. Après, je vais pas dire que si tu le vois plus longtemps, il n'y a pas grand chose de différent, mais c'est un peu l'idée. Et ça, c'est un vrai problème, tu vois, même au moment de choisir les singles pour les albums et tout. Moi, j'ai toujours été nul pour ça, parce que le truc que j'aime bien mettre en place, c'est une sorte de logique qui fait que tu t'installes dans quelque chose, qu'au bout d'un quart d'heure, tu rebondis sur un truc que tu as dit au début, que les gens se disent « Ah ouais, non, en fait, quand ils faisaient ça, en fait, c'était fait exprès, c'était... » Et donc, c'est un truc où il faut passer un petit peu de temps, ouais. Et ce qui est forcément pas la grosse tendance actuelle, tu vois, de s'accorder une demi-heure avec quelqu'un, tu vois.
Mais ouais, voilà. Mais je pense que les gens...
J'aime bien ça.
Les gens ont le temps, finalement.
Sans doute.
La science dit... Oh, les gens n'ont plus le temps. Les gens ont le
temps. Non, mais il faut prendre le temps. Mais tu vois,
tu vois qu'Instagram est regardé 6 heures par jour, les gens...
Ah oui, mais Instagram, tu zappes très, très vite.
T'es avec une nouvelle meuf, tu fais écouter des morceaux, tu mets pas Vincent Delerme tout de suite. Je sais pas, il y a un truc dans l'ambiance. À un moment, tu dis... Ça y est,
très, très tard.
C'est le moment Vincent Delerme. Tu vois, tu le sens, tu dis c'est maintenant.
3h12.
C'est le moment Vincent Delerme. Il est trop tard, on frappe à l'amour. Donc je peux mettre du Vincent Delerme.
C'est le titre de
Il est trop tard, on frappe à l'amour. C'est un duo avec Benjamin Biolay.
J'aime bien ce truc-là. Moi, tu vois, par exemple, même dans des cafés, des fois, ça arrive rarement, mais des fois, t'as quelqu'un qui fout un disque d'une personne en continu. Tu vois, tu restes avec le même chanteur.
C'est kiffant d'ailleurs, t'as la même couleur dans le café.
C'est agréable. Tu vois, tu passes un temps, mais ça, c'est aussi un truc. Sans doute de génération aussi, hein, parce que moi j'aime bien passer du temps avec quelqu'un. Et ce que j'attends des chanteurs, souvent, c'est des chanteuses, c'est ça, c'est me mettre dans une bulle. Après, il y a plein de titres que j'adore de manière isolée, mais j'aime bien quand même me dire tiens, là, je vais passer un moment de ce matin avec tel album. Moi, tu vois, des fois, les gens, quand tu continues à faire des disques, ils disent mais attends, pourquoi vous faites des albums aujourd'hui? Les gens consomment les chansons une par une et tout ça, mais. Moi, je me sens pas accroché aux albums parce que j'ai connu le moment où les albums se vendaient beaucoup en tant qu'album. C'est juste parce que j'aime bien ça. J'aime bien un disque. Par exemple, j'y ai repensé, tu vois, ce matin. Je voulais conseiller un truc que j'ai bien aimé récemment. Et j'ai reçu le disque en entier. Mais pour l'instant, les morceaux disponibles, il y en a qu'un seul sur 12. Et ce truc-là, je trouve ça hyper triste quand tu tapes un album et puis que tu vois le morceau écrit en noir et puis tous les autres en gris. Et puis ça va arriver plus tard. Mais c'est pas mon truc.
C'est dur de créer un album. C'est vraiment dur. Je me suis frôlé à cet exercice ces trois dernières années.
C'est vrai.
C'est vraiment compliqué. Enfin, psychologiquement, tu passes par des stades de doute, d'envie d'arrêter, d'envie de continuer. Des fois, t'es motivé, des fois, t'es surmotivé. C'est plus possible. Au moment de livrer, j'ai jamais été autant reculant sur un projet au moment de dire allez, c'est bon, c'est fini là. Là, il est terminé. Maintenant, c'est fini. 8 albums concrètement de studio, on compte pas les albums de BO de film et tout que t'as fait, mais comment tu gères ce protocole de faire un album? Est-ce que c'était pénible au début? Est-ce que c'est juste amusant? Est-ce que tu t'en fous? Est-ce que t'arrives à totalement lâcher prise là-dessus?
Bah, déjà, toi, c'est un peu particulier parce que tu fais un disque, à un moment donné, on t'attend pas forcément là-dessus, t'es déjà identifié autrement. Donc, moi, quand j'ai commencé, c'était pas l'enjeu, donc j'étais plus détendu d'un côté. Après, par contre, oui, les premiers albums, t'as l'impression que tout se joue là, et c'était drôle. C'est qu'aujourd'hui, on a failli être avec Aloïse Sauvage dans cette émission, et c'est une fille que j'adore, et que quand je l'ai rencontrée, je sentais vraiment qu'elle avait ce truc du...
Tu comprends pas, Vincent. C'est
début.
Maintenant.
Non, ouais, c'est ça, c'est de se dire, j'ai peur que les gens me mettent dans cette catégorie-là, ou tout ça. Et au début, t'as l'impression que oui, ça va être très, très, très charnière, très décisif, ce truc-là, que chaque décision que tu prends, les promos que t'acceptes, les trucs que tu refuses, tout se joue là, ce qui n'est pas complètement faux, en plus, parce que c'est vrai que tu choisis un peu des choses. Mais après, finalement, les disques, c'est très différent d'une fois à l'autre. Et puis, tu as dit que tu avais du mal à arrêter, mais ça, par exemple, tu as deux familles de musiciens. Tu as des gens, un mec comme l'ancien chanteur des Innocents, JP Nataf, ou Laurent Voulzy, des mecs qui ne peuvent jamais finir leur album. Il faut toujours qu'ils changent un truc, ils reculent ce moment-là. Moi, je suis plutôt quelqu'un, à un moment donné, je me dis, bon, bah là, voilà, ça y est, c'est bon.
T'as l'air hyper détente, c'est ça qui est ouf.
Bah, tu sais, c'est quand même une chance de dingue de pouvoir faire ça pendant longtemps. Moi, c'était mon rêve de faire des chansons, de faire des concerts. Donc, oui, c'est le minimum, je trouve, de courtoisie, de politesse, disons, c'est d'être content de le faire et de...
Ah, mais d'être content de le faire, mais t'as jamais de doute, c'est ça que je veux dire,
mais
par rapport surtout...
Je les formule jamais, parce que si tu les formules, aussi auprès de gens qui sont ton équipe technique. Moi, je voulais pas avoir de manager pour cette raison-là, parce que je voulais pas avoir quelqu'un à qui je dis, ouais, là, en ce moment, je me pose des questions, je ne suis pas sûr que... Il dit, c'est tellement génial de faire ça que tout ce qui est un peu pourri, c'est-à-dire les discussions de blé avec un label, les moments où tu n'es pas sûr de toi, au moins, prends-le pour toi. Enfin, pour moi, c'est ma contribution. Tu vois, c'est la contrepartie un peu moins marrante à ça. Donc, effectivement, en général, je n'ai pas tendance à évoquer ces aspects-là. Mais oui, ce n'est pas tellement des doutes, c'est que moi, je suis assez bosseur, tu vois, et j'écris donc, j'essaye tout le temps d'écrire des chansons. Et c'est tout le temps mauvais, en fait. Sauf une fois sur...
C'est tout le temps,
à mon sens.
C'est pas tout le temps, non, c'est pas
le truc que je retiens à la fin, je pense que c'est bien. Mais les étapes pour y arriver, t'es dans la boue tout le temps. C'est-à-dire que tu refais des trucs, des textes que t'as déjà fait, des fois tu te dis, ah ça c'est bien, ah bah oui, non, mais c'est un couplet de Cabrel. Enfin, tu vois, et tu refais, c'est un domaine, en plus, la chanson, c'est très court, donc ça va très vite de voir si ça a déjà été fait soit par toi, soit par quelqu'un d'autre. Et t'as très vite fait aussi, ouais, en fait, comme c'est court, t'attends un peu que le truc te plaise complètement. Là, je parle que pour moi, hein, t'es ton seul juge là-dessus. Mais et tant que t'as l'impression que c'est de la chanson, c'est pas non plus un bouquin dans lequel tu peux admettre qu'il y aura des passages super et puis des fois, bon, 3-4 pages qui permettent de relier un moment qui était super à un autre qui va être super à nouveau. Là, t'espères que tu vas faire 11 trucs qui te plaisent complètement à 100% et tu peux les juger vite en plus que tu te les rejoues. Tu dis, bon, ça c'est vraiment pas mal, ça c'est pas fou quoi. Donc, t'as beaucoup ce truc-là, mais c'est plus un truc de boulot. Tu le sais à chaque fois que tu dois passer par là. Et c'est sûr que... moi, je suis persuadé que les chanteurs entre eux, par exemple, il y a quand même... on s'entend tous assez bien, même des gens qui n'ont pas du tout les mêmes univers, parce que on s'est tous un peu
ridicule. Mick Jagger, il est sympa ?
Bah voilà, ça c'est le truc que je ne sais pas.
D'accord.
Mais quand même, plutôt sur le territoire francophone, en tout cas.
Tous les chanteurs se connaissent, en fait. t'es chanteur ! Bah ouais, faut que tu parles à Mick.
T'as pas des gens dans une loge où tu dis, ah là là, faut surtout pas les mettre ensemble, ces deux-là. Enfin, t'as peut-être 2-3 cas, tu vois, mais c'est très faible. Parce qu'on s'est tous ridiculisés les uns devant les autres, à faire des promos, devant des trucs qui clignotent ou à se louper, tu vois.
Et la télévision.
À faire des télés, à faire des concerts où tu prends un bouillon parce que le public est plutôt venu pour voir, je sais pas, les Strokes qui passent une heure et demie après. Et donc, ce truc-là fait que... Et sur la compo aussi, sur les chansons, on sait très bien que pour les gens qui écrivent des chansons, bah oui, que c'est pas un truc... Il y a une mythologie qui a été un peu mise en place par Gainsbourg, notamment, sur l'idée de la brillance, de faire toutes les paroles d'un album dans la nuit.
De boire beaucoup d'alcool aussi.
Mais même un mec comme Chamfort, il va te dire « Non mais Gainsbourg, il dit ça, mais c'est faux. Moi, quand il a bossé pour moi, il y avait des trucs ratés aussi. » Et les gens adorent cette idée que souvent, t'es sur un coin de nappe, tu fais un truc, puis ça devient, j'ai vu un poster de Capri, puis j'ai écrit Capri, c'est fini. Ça arrive sans doute quelques fois, mais la plupart du temps, c'est pas trop ça.
Est-ce que c'est pas la clé de tout, ça serait pas la simplicité aussi, c'est d'aller au plus simple, d'aller au plus évident, d'aller de plus en plus. Quand je vois un mec comme Orelsan que j'adore, je trouve qu'il arrive de plus en plus à aller à la simplicité dans son propos, dans sa manière. C'est quelque chose que t'aimes faire aussi, parce que tu trouves que t'as une vraie... Enfin, tu te prends beaucoup moins... Enfin, beaucoup, tu te prends pas la tête, en fait.
Bah, la clé, c'est un peu d'être aligné, en tout cas, sur ce que tu as à faire, sur qui t'es. Par exemple, tu vois ça sur le storytelling, parce que si tu as zéro storytelling sur un album, c'est vraiment compliqué. En média, il y a besoin, surtout quand ça fait un moment que tu es là, d'avoir une histoire à raconter. Mais du coup, l'enjeu, c'est de trouver un storytelling qui correspond à un vrai truc de ta vie. Si ton storytelling, c'est de dire, pour moi, je rêvais de vivre en Patagonie, du coup, j'y ai passé 6 mois, j'ai fait l'album là-bas. Toi-même, tu n'y crois pas du tout et personne ne va y croire. Par contre, si c'est de faire un album sur l'histoire de ton couple depuis 10 ans ou des trucs qui sont cohérents avec toi, donc ça rejoint ton idée de simplicité parce que ce n'est pas forcément une simplicité, mais c'est quand même d'être à peu près
sincère,
juste
d'être
toi,
assez sincère. Quoi.
Sinon, évidemment que ça se sent de l'extérieur, mais même pour toi, ça doit être un enfer parce que tu dois te dire oh là, mais putain, qu'est-ce que je suis en train de raconter là ? Alors qu'au moins. Si tu dis un truc qui correspond à ce que tu as vécu, à ce que tu penses depuis longtemps, c'est quand même plus facile.
On cherche beaucoup ce qu'on va raconter avant de le raconter, pour être sûr que ce soit solide, pour qu'on puisse le raconter 2-3 ans.
Ah oui, ça c'est sûr. Bah oui, ça, vous voyez bien ce truc-là aussi dans les domaines où vous êtes, parce que au moins, c'est ce qui fait que les fois où tu te fais tacler, où on dit « Ah putain, mais ça m'intéresse pas du tout ton truc », tu dis « Bah ok, pas de souci, mais c'est moins gênant que si on te dit putain, ça m'intéresse pas, et tu te dis putain, mais ouais, c'est vrai que c'est pas intéressant, pourquoi j'ai été raconté ce truc là Tu dis bah oui, je l'ai raconté et je sais pourquoi.
Comment on fait pour écrire une chanson? C'est pas paraître con comme chanson, mais comment on fait? Non, mais c'est quoi le. Ça part de quoi? C'est quoi le début? C'est quoi le début?
Ouais, ouais, c'est... Quand j'étais plus. Quand j'étais étudiant, tu vois, je me disais, tiens, je vais lire des bouquins sur les mecs qui ont écrit.
Mais c'est
chansons.
Ça, est-ce qu'on va théoriser là le...
J'en ai lu, hein, tu vois, même des paroliers, parce qu'à l'époque, c'était plus. Tu vois, sur la variété des années 70, t'avais des grands paroliers qui ont fait des bouquins, Claude Lemel, des gens comme ça. Et en fait, à chaque fois, je me disais, putain, on n'apprend rien là-dedans. Et pareil, quand j'écoutais je lisais des entretiens avec des chanteurs et des chanteuses, je me disais, putain, ils disent des choses, mais jamais là-dessus, quoi. Et ça me choquait presque un peu, parce que moi, j'aime bien avoir ce truc un peu, pas de pédagogie, mais un peu de transmission. Je suis une famille de profs, j'ai un truc un peu comme ça. J'ai bien aimé faire les bouquins de photos qui montrent la vie de tournée.
Décortiquer, expliquer,
ouais,
comprendre.
Montrer vraiment comment c'est, quoi. Et pas mentir aux gens, pas... parce qu'évidemment, les gens, ils fantasment. Par exemple, t'as toujours des gens qui fantasment de faire des documentaires sur la création et disent on va faire un truc, on va vous suivre pendant l'enregistrement de l'album, ouais, pendant l'écriture. Mais c'est impossible, ça n'a aucun intérêt si tu le fais vraiment.
C'est comme quand tu regardes un making-of et qu'en fait, tu vois un bêtisier entrecoupé de plans sur des caméras. Et en fait, si toi, t'es un mec qui rêve de faire des films, tu dis, mais ils m'ont pas dit comment ils ont fait le film.
Ouais, c'est ça.
Ils m'ont montré des bouts de gens.
Qui s'amusent.
Oh, il est beau ce plan-là, le mec qui est en train de mettre le spot.
Ouais,
moi,
oui,
je préférais que tu me dises, c'est quoi comme spot?
Mais en fait, c'est un double truc. Parce que souvent,
je
les
pense
gens...
que ça s'adresse pas réellement aux gens qui veulent faire. Quand
ouais,
tu lis
oui,
un bouquin
sûr, c'est sûr, c'est
ou
sûr.
Que tu regardes un truc sur. Comment est Vincent Delerme vu c'est un peu un truc qu'on se dit quand on dit ouais viens on essaie de faire un vrai par exemple making of du spectacle.
Ouais.
On dit mais oui mais pour toute l'écriture.
Bah non ouais, c'est ça.
À part nous voir nous deux
ouais.
qui parlons en tournant dans une pièce.
Ah, ouais c'est sûr.
En disant bon alors pour ceux qui veulent vraiment voir comment on écrit c'est comme ça mais en fait techniquement c'est chiant. Personne va dire je veux faire un docu là-dessus.
T'as un cas d'école de ça qui est un doc de un truc qui avait tourné Mathieu Bogart, le chanteur tout seul pendant une phase d'écriture. Et en fait, là, c'est assez juste. Mais tu le vois vraiment. Se prendre la tête, dire à la fin d'une journée, bon, allez, je suis content, face caméra, mais en plus, c'est un truc qui date d'il y a un moment, donc ça bouge vachement, c'est vraiment une caméra un peu cheap.
Et puis
en plus,
tu vois que sa façon à lui de faire, et tu te rends compte qu'en plus, personne ne fait pareil.
Ah bah non, ça c'est sûr. Mais il dit, je suis hyper content parce que j'ai trouvé cette phrase-là, et puis il te dit la phrase, et c'est presque un peu gênant. Et moi, j'adore son doc parce que t'es là-dedans, et le lendemain, il est tout déprimé. Mais il y a plein de gens qui
se sont rendu compte que la phrase était pas
ouf. Ce doc, c'est pas possible, quoi, ça met trop mal à l'aise. Oui, mais en fait, si on veut vraiment montrer comment
c'est du malaise.
C'est comme ça, ouais. Ça, c'est pas fou. Après, donc, pour revenir à ta question sur les chansons, ça m'a souvent marqué que t'as pas de truc, t'as pas une pièce que t'adores, un piano que t'aimes plus qu'un autre, un cahier ou un truc. Techniquement, il y a rien. Y a pas
Tu notes à l'iPhone?
Ouais, t'essayes de. En fait, quand même, le truc, c'est que t'essayes que ça tienne le jeu.
T'as la musique avant les paroles,
la musique. Toujours la musique. Parce que la musique, soit elle vient, soit elle vient pas, mais si elle vient. C'est pas laborieux, quoi. Tu vois, tu fais une mélodie alors que les paroles, tu y reviens. Mais le truc, c'est que si ça tient la route la journée...
J'ai l'impression que tu fais la musique d'un film avant de voir le film et qu'en écoutant la propre musique du film que t'as fait, ça t'inspire les paroles.
Ouais, ça peut arriver. Et surtout, tu vois, sur le dernier album, j'avais demandé à différentes personnes de faire un arrangement sur les musiques avant que les textes soient écrits. Parce que souvent, les arrangeurs, ils aiment bien dire... Mais moi, j'ai besoin
Qu'est-ce
de savoir,
que c'est un arrangeur
J'ai besoin de savoir de quoi ça parle. C'est la personne qui va écrire une orchestration, qui va décider...
Qui mettre des cordes, des violons,
ouais,
des
programmations,
peut-être un
même,
saxophone.
Vois, ouais. Un saxophone.
Ça, c'est ton truc, le saxophone.
Bah oui, je crois que j'en ai jamais mis, ouais. Mais c'est assez tendance, hein.
Saxophone, c'est très... Attention, ouais. ça va baiser dans les draps de satin, quand même, hein.
Ouais, mais il y a plusieurs utilisations.
Les années 90, c'est le saxophone.
Il y a aussi à la même.
Il y a pas des cuivres. Non, il y a pas de saxophone.
Si, mais plutôt trompette un peu mariachi.
Celui avec Rollin, sensibilité de gauche, tout ça, il y aurait pas un saxophone.
Ah oui,
il n'y
avait pas de saxo, mais il y aurait pu.
Un saxo basse peut-être, non, c'est pas un saxo basse.
Je crois pas.
Et donc tu disais les arrangeurs, tu leur as demandé de
d'arranger avant d'avoir le texte, parce que souvent ils vont te dire ouais, mais moi j'ai besoin de savoir le climat du texte, mais c'est un peu absurde parce que du coup si c'est si ça se passe sous la neige, ils vont te mettre des pids, des petites notes. Enfin, tu vois, et ça, j'y crois pas trop. Et là,
donc
j'ai
tu
fait
tu pars de la musique et ensuite, des fois, tu composes les paroles ensuite, c'est ça? Tu
ah bah,
peux
je
faire
toujours
ça.
La musique avant d'accord. Et les paroles, mais là, du coup, j'ai fait la mélodie, puis
là,
demandé
musique,
un arrangement.
Arrangement, puis paroles.
Puis paroles. Ah, et ça, c'était pas mal parce que, tu vois, sur...
Pour Panorama?
Ouais, pour Panorama. Par exemple, Vivarda, c'est un bon exemple de ça. Parce que la chanson parle d'Agnès Varda, mais au-delà d'Agnès Varda, ça parle du fait de tracer sa vie, de pas trop tenir compte bah, oui, de ce qui se passe autour, de faire le chemin que tu as à faire, de pas dévier. Quoi. Et l'arrangement, j'avais demandé à un mec qui s'appelle Peter Von Paul, avec qui j'avais déjà bossé, qui est un Suédois, que j'adore, qui fait des disques dont je suis super fan depuis longtemps.
Il faut les monter soi-même, par contre, les disques, c'est relou. Tu les reçois en kit.
Il m'a rendu un arrangement qui était tellement en dehors des clous de... Bah, de la vitesse tu vois, qu'il faudrait ouais. pour rentrer sur Skyrock, que je me suis dit quand même, Peter, c'est vraiment le mec qui a sa pulse, qui ne va jamais dévier, et c'est devenu du coup le sujet de la chanson. Mine de rien, ça m'a aiguillé vers cette idée-là. Et ça, c'est cool. Tu
n'avais même pas Varda quand tu as fait
ça? Non, je n'avais pas Varda au départ. Okay. Mais après, évidemment, le personnage de Varda incarnait beaucoup ça pour moi, et c'était plus simple. Mais souvent... Les gens seraient un peu choqués, sans doute, alors qu'il ne faut pas, à mon sens, mais parce que tu as une idée qui va sur une musique, puis finalement tu dis « Ah ben non, ben ça, finalement ça irait mieux sur celle-là, ça switch. » Alors que dans l'inconscient collectif, il y a cette idée que telle musique doit appeler telle parole. Et souvent, ce n'est pas le cas. C'est un moment de ta vie où tu as envie de parler de ça, de ça, de ça, de ça. Et puis, c'est comme des petits post-it que tu as mis, et puis tu l'essayes sur une musique, sur une autre, et puis ah ben, finalement, ça va mieux là. Et ça, ça arrive assez souvent, ça. Donc, c'est pas sacré une chanson, ne serait-ce qu'à cause de ça, parce que tu la testes, tu vois, c'est comme si...
Tu vas jouer en live, des fois, après, tu la remets sur ton album, tu te dis... parce que à l'époque, dans les années 60, 70, on ouais. jouait en live, on créait, on allait en studio, on mettait le travail de ce qu'on avait fait en live, qu'on avait amélioré chaque soir. Or, maintenant, le process de c'est je fais un album et ensuite, je pars en tournée.
Ouais, bien sûr.
On n'a plus ce côté j'explore. Je sais que Muse, à un moment donné, faisait ça et à la fin de leur concert, ils testaient les nouvelles chansons et après, ils partaient en studio et ils cristallisaient les nouvelles chansons.
Tu as déjà fait ça ou pas?
Ouais,
tu l'as une fois ou deux parce qu'une chanson que tu as faite en cours de tournée, que tu aimes bien jouer en rappel et du coup, après, elle ira sur l'album d'après. Ça peut arriver. Mais sinon, plutôt pas.
Mais ça fait c'est vrai que c'est complètement fou, t'organises. C'est comme si t'organisais une soirée, tu sais pas ce qu'elle va donner en
ouais,
fait.
Ouais, c'est vrai. Bah après, c'est que ce qui est marrant aussi, c'est qu'en fin de tournée, tu prends toutes tes chansons, tu les joues deux fois plus vite que sur l'album aussi. Parce que je sais pas pourquoi, la réaction au public, puis le fait de la digérer, de la tenir de mieux en mieux, tu la fais de plus en plus vite. Et t'as beaucoup de mal à réécouter ton album à la fin de la tournée parce que tu dis oh là là, pourquoi on a
ouais, en même temps, c'est cool parce que du coup, quand tu vas voir la tournée d'un album que ah bah t'aimes, oui. t'as vraiment une nouvelle version. Quoi.
Ouais, et puis c'est quand même le potentiel de découverte des oreilles du public est limité quand même un peu. C'est-à-dire que s'il y a trop de trucs tout nouveaux que tu connais pas, les chansons, tu t'y attaches quand même. Il y en a certaines, tu dis dès la première écoute, je suis rentré dedans, mais c'est assez rare finalement.
C'est comme la pub, il faut en avoir entendu parler pour comprendre que le produit existe.
Pour moi, c'est comme une soirée. Ça veut dire que Vincent dit viens, je fais une soirée à la maison, et il y a tous ses potes, mais que tu connais pas. C'est que des nouveaux potes de Vincent, et tu dois tous les rencontrer en même temps. C'est pas pareil que si tu les rencontres un par un, t'as le temps de les connaître, et après, vous partez en vacances ensemble, mais ça,
c'est un truc qu'on voit sur les artistes qu'on aime, c'est-à-dire que souvent, quand ils sortent leur nouvel album dont on attend énormément, la première écoute, tu dis ah, je crois que je suis un peu déçu. Et puis en fait, souvent après, tu dis « Ah non, en fait, j'adore. »
Puis le morceau que t'aimais le moins à la fin, celui que t'aimes le plus aussi.
Ouais, c'est curieux ça.
Je fais une petite parenthèse. Il y a un morceau que tu fais avec Mathieu Bogaerts, qui est un peu méconnu, je trouve, et pas la... mais qui est génial.
Et tu penses à chaque fois que tu réponds.
Ça s'appelle... Je crois que c'est « Nya, 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 nya ».
Ouais, « Nanana ».
« Nanana ». C'est le concept. C'est un concept qui... En fait, ça me fait kiffer parce que j'adore les concepts dans les chansons. Et c'est toi et Mathieu, vous avez chacun un couplet.
Ouais.
Et vous répondez à des journalistes. Et vous savez pas quoi répondre. Et le mec te dit alors vous êtes un peu tiède comme artiste. Et là non, mais c'est parce qu'en fait des fois je pense que et après tu fais vrai, tu dis j'ai marché sous la pluie en refaisant une réponse mieux foutue. Nanana.
Ouais, c'est un truc que c'est Mathieu qui avait cette idée.
D'ailleurs tes disques publics sont vraiment sont des œuvres à part entière aussi.
Bah celui-là était marrant parce qu'en fait comme il y avait un invité chaque soir, tu vois, on a fait trois semaines, des fois il y en avait même deux.
Prochaine la cigale.
On bossait à chaque fois, on bossait vraiment avec les musiciens, l'arrangement bien et tout, et surtout je voulais que les invités soient là que sur le rappel. Donc c'est un moment où la salle se dit plus tiens, il va peut-être y avoir un invité surprise. Ce qui marchait vachement bien parce que du coup c'était un peu le feu au moment où la personne arrive.
Genre le feu.
Bah franchement ouais, c'était
Renaud,
c'était bah ça marchait d'autant mieux sur les gens les chanteurs un peu plus âgés, c'est-à-dire les mecs dont tu te dis
Souchon, Renaud,
ils vont jamais ouais, et Moustaki il va, c'est pas un mec qui va se pointer à 22h20. Après quand c'est Valérie Le Mercier ou des gens plus jeunes qui avaient à ce moment-là de ma génération, parce que c'était il y a en 2006, c'était il y a longtemps ouais.
On parle et, de, c'est quoi ses favorites songs?
Ouais, favorite song. Et donc ouais, là quand t'es, surtout Souchon, le souvenir que j'ai c'est vraiment on fait la rumba dans l'air, donc on revient rappel, et on s'était tous remis avec les musiciens en costard, avec un petit nœud pape. Et puis, tu vois, il y avait déjà une sorte de bonne ambiance avec une coupe de champagne à la main. On attaque la rumba dans l'air. Et donc là, c'est rappel de rappel. Et tu as le début. Puis Alain chante, lance la voix depuis la coulisse. Tu vois, il y a de la rumba dans l'air. Il rentre avec sa coupe de champagne aussi. Mais c'était énorme le bruit que ça a fait. Mais je te jure, c'est vraiment... La Cigale, je l'ai fait beaucoup. C'est une salle que j'ai vraiment... fait souvent, et j'ai vraiment cru que ça allait se déglinguer, quoi, que le, c'est comme dans un
comme dans un dessin animé.
Ouais, vraiment, c'était fou le bruit que ça a fait, et c'était c'est un souvenir hyper fort ça.
Mais je pense qu'il y a un truc où c'est incroyable, alors que quelque part il y a une affinité logique entre Souchon et toi, mais comme il y a un peu une filiation mais qu'il est au-dessus, tu vois,
ouais,
c'est
ouais,
genre
bien
le,
sûr,
c'est
bien
le,
sûr.
Le boss,
bien sûr,
pour les gens qui sont dans la salle, je pense qu'il y a un double effet, c'est que tu as quand même une immense majorité, voire peut-être, je pense même tout le public qui est fan de Souchon, ils sont contents de voir Souchon, mais en plus, je pense qu'ils sont en empathie avec toi.
Oui, ils savent que ça te fait trop
plaisir. Parce qu'ils
se disent,
putain,
c'est vrai,
il est avec Souchon, genre, on est trop contents pour toi aussi. Mais moi, je me souviens, j'étais allé à un concert où il était dans la salle et déjà, les gens étaient comme des oufs parce qu'il était à tel point que tu l'as fait monter. Je sais pas si c'était,
ah oui, c'était sur
un happening prévu ou pas,
non.
Mais tu as juste dû dire, et merci à Alain d'être là,
ouais,
et les gens sont un peu devenus oufs de se dire, depuis tout à l'heure, il était là avec nous, il regardait Vincent Delerme, mais c'est
ça,
incroyable.
Ça, non, mais ça, c'est vrai que ça met le doigt sur un truc qui existe beaucoup, en tout cas en chanson. C'est vrai que les gens fantasment, se projettent vachement dans un truc affectif, quoi. Et se disent, ah, ils ont l'air de bien s'entendre, ça compte beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un truc avec lequel il faut faire gaffe, parce qu'il faut pas en rajouter, quoi. Faut que ce soit aussi assez sincère, parce que sinon... c'est sûr que mentalement, les gens, ils adorent l'idée que la chanson française, c'est une grande maison et que t'as Aznavour au grenier, Cabrel couvre sa fenêtre de la salle de bain.
Vraiment un livre pour enfants.
Mais je pense qu'ils se projettent dans toi comme, ah, Vincent et moi, on est fans de Souchon.
Oui, c'est vrai. Moi je suis un mec qui fait de la chanson, mais qui a toujours dit qu'il faisait de la chanson parce qu'il adore... il en a écouté beaucoup et que j'ai adoré ça. Moi, j'ai fantasmé, je regardais les pochettes de disques, je me disais, putain, mais ça doit être tellement incroyable de faire un album. Et à la fois, je suis dans le truc, mais ça me fait toujours halluciner. Même ça me fait halluciner, même de voir quelqu'un qui a 24 ans, qui vient de gagner The Voice, qui passe devant la porte de ma loge. Je trouve ça toujours étonnant. Je me dis, bah, c'est normal, je fais des émissions depuis longtemps, je fais partie aussi de ce cirque-là. Mais j'ai toujours une part de moi qui se sent... extérieur au truc.
Ça a été quoi ton déclic pour t'y mettre ? Tu sais, du passe de Rouen à Paris, c'est quoi le déclic où tu te dis, c'est bon, je vais m'autoriser à faire des chansons ? Parce que ton père écrit, ton père fait des romans, il a un livre qui est très, très, très connu, qui s'appelle
de
Des putes et un cigare. pardon, la première gorgée de bière,
il avait
c'est un autre,
c'est un
dernier moment, il a, oui, c'est vrai.
Version québécoise.
Oui, c'est vrai. qui est un peu qui est un livre hyper agréable à lire. Si on peut en parler ou pas, Vincent, ça te dérange pas?
Pas du tout, tu rigoles ou quoi?
D'accord.
C'est un livre. Il est complexé, le gros bébé.
T'es fou.
Non, non, mais c'est un livre hyper agréable à lire qu'on peut lire d'ailleurs à n'importe quel moment. On peut prendre une page. Par exemple, la première gorgée de bière, il parle de la sensation de la première gorgée de bière et c'est un peu le gars qui arrive à mettre des mots sur les petits.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Des petites sensations, les petits moments. Et je trouve aussi que t'as aussi emprunté ce chemin sur certaines de tes chansons où tu parlais justement de... T'as ce sens un peu que ce que nous on fait en humour, on tire un peu le trait, mais toi t'arrives dans la vérité. Et c'est ça qui est intéressant justement. Et est-ce que quand on est fils d'un romancier, c'est plus facile d'avoir un déclic? Et sinon, quel a été ton déclic?
Bah écoute, en fait, déjà, moi, je me suis fabriqué quand même beaucoup avec lui, avec mes parents, mais avec lui, et sa tournure d'esprit, au-delà de son écriture. C'est-à-dire que pour faire un bouquin comme ça, où tu vas recenser, et il l'a fait dans ce livre-là, mais il l'a fait dans plein de fois, pour plein de choses, recenser à la fois, s'arrêter sur un truc que disent les gens. Effectivement, c'est des trucs qui sont presque plus des trucs de mecs de stand-up.
C'est du stand-up. Relever, la première gorgée de bière, lisez-le. C'est un. Même à n'importe quel moment, avant de vous coucher, une page, lisez-la à haute voix, c'est sublime.
Ah, c'est sympa. Bah ouais, et c'était fou cette histoire. Parce que, mais en tout cas, lui, il a cette manière d'analyser la vie et qui est un truc qui est assez célébrant en fait. Parce que des fois, ça peut être aussi pour désinguer quelque chose, enfin pour dire du mal, quoi. Mais la plupart du temps, c'est quand même pour se dire putain, quand même, c'est quand même assez marrant d'être là en vie, de vivre tous ces trucs-là, de pouvoir observer ça, de pouvoir goûter à ça, de pouvoir vivre ce genre de soirée-là. Et ça, moi, je me sentais proche de ça aussi quand j'ai commencé à faire des chansons. Je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne tellement sur les histoires que je raconte, plutôt sur des ambiances, sur des atmosphères, sur un truc qui est un peu dans l'air, sur des vibrations, des trucs comme ça.
On plonge avec toi quand on
écoute. Voilà, donc en fait, déjà, bah, pour moi, c'était cool parce qu'ils étaient, mes deux parents étaient profs de français, mais ils faisaient en classe, ils faisaient étudier des bouquins, évidemment, mais ils faisaient aussi étudier des textes de chansons. Française.
C'est bien ça, putain, c'est génial.
Donc moi je me disais pas ouais, la chanson c'est un sous-genre par rapport à la littérature, tu vois. Au contraire, je me disais bah ils aiment bien ça. J'en ai entendu très tôt, j'ai vu des concerts très tôt quand j'étais gamin, et puis après j'étais touché par ça, tu vois. Quand j'étais au lycée, si tu demandes aux gens de lever la main dans la cour, qui veut faire Noir Désir et qui veut faire Michel Berger, tout le monde veut faire Noir Désir parce que c'est quand même ces trucs, c'est plus rock, c'est plus rude. La chanson, il y a un côté un peu
parce qu'on oublie aussi un peu que quand tu commences,
ouais,
t'arrives avec la mode. La mode qui s'est, il y a 20 ans, où on a dit ah, c'est la nouvelle chanson française, t'y es déjà. C'est-à-dire que t'as pas suivi un mouvement où on peut se dire bah oui, tout le monde adore la nouvelle chanson française, donc on va s'en donner un petit ami. Pour moi, t'étais dans les. Il y en avait déjà,
oui,
mais c'était un peu sûr, à contre-courant avant que ça devienne un courant, la nouvelle chanson française.
C'est pour ça que du coup, ça devient un truc un peu genre, tiens, c'est marrant, ces mecs qui se revendiquent de trucs qui ont déjà existé. Et puis de ce truc très simple, je me souviens d'un... tu vois, j'avais fait... j'avais été voir un film qui s'appelait L'âge des possibles. Parce que fin des années 90, c'est le premier film de Pascal Ferrand, qui est un film qu'elle a tourné avec une classe du cours de théâtre de Strasbourg, qui était le TNS, qui était vraiment l'école de théâtre que tout le monde voulait faire. Parce qu'en fait, à Rouen, j'étais dans une bande de théâtre aussi. Je faisais des chansons de mon côté.
Ah d'accord, donc t'étais un peu dans la...
Ouais. Et je faisais beaucoup de café-théâtre, de trucs où...
Ah d'accord, donc tu créais des numéros, des trucs comme ça. Donc.
Et j'étais assez marrant.
Mais tu es toujours assez marrant.
Non, mais c'est, en tout cas, c'était marrant pour nous, c'est qu'on était à la fac.
Tu es un grand imitateur,
Vincent. Je suis pas certain.
Il a des silences marrants...
Et ouais, ça, c'est le café théâtre, en tout cas.
Je vais piquer les silences marrants.
C'est vrai ?
Ouais. Ouais, d'ailleurs, je les reconnais à chaque fois. Je dis, ah, ça, c'est le silence du spectacle.
Avec ma silhouette, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai regardé Vincent Delerme, quand tu te tais, ça peut être marrant.
Et ça, c'est vrai que c'est un truc que tu apprends au café théâtre. Le fait de jouer avec
le feu. C'est le feu, le café théâtre. Hein. Ça peut être, tu
en
peux
cas,
vite
le
être...
silence, parce que en chanson, personne ne se dit, je vais faire un concert, et puis des fois, je vais m'arrêter, et puis... Non, il faut tout le temps occuper l'espace. Donc ça, c'était cool d'avoir fait ça, ce truc de café-théâtre. Et on est parti très, très loin de mon père et tout ça.
C'est pas grave, mais le déclic.
Et du coup, tu faisais du piano.
Ouais, non,
d'où vient le fait que tu fais du piano ? Par exemple, moi, je regrette de ne pas avoir appris à faire du piano quand j'étais jeune. Comme ça, je saurais en faire, quoi.
Ah oui, mais alors moi, j'ai le même profil que toi. C'est-à-dire que, pareil, là, mes parents, ils étaient dans un truc génération un peu... baba cool, quoi, ou avec l'idée que apprendre un instrument à un enfant, c'était le modèle bourgeois, enfin toutes les éducations comme ça, donc c'est l'enfant qui choisit. Donc moi, j'ai rien appris en musique jusqu'à 15-16 ans, et là par contre, effectivement, il y a eu l'album de Scheller en solitaire qui est sorti.
Ah, c'était fou ça.
Il y avait plein de trucs, hein. J'ai vu un mec qui s'appelait Romain Didier que j'aimais beaucoup, et puis des gens qui jouaient tout seul, mais même quand je voyais McCartney se mettre au piano, je trouvais ça plus fort que quand il était à la guitare. Ça me touchait, quoi, les gens qui se mettaient au piano, et puis comme je savais pas en jouer, j'ai dit, putain, mais ça doit être dingue de savoir en jouer. Alors que si j'avais appris, j'aurais pas eu cette sensation-là. Donc, à 16 ans, j'ai vraiment trouvé un prof pour m'apprendre le piano, en lui cachant pas que le truc que je visais, c'était de jouer des plans avec des accords, des trucs comme ça, de chansons.
Coursdusoir.com, il y a un site que tu recommandes pour apprendre le piano.
Cours du samedi matin avec Madame
Bruyère.fr.
Mais là, je crois qu'elle a arrêté.
Donc, des petits cours de piano à partir de 16 ans, donc il est pas tard, hein, 16 ans.
C'était en première, ouais. Et en tout cas. En tout cas, pendant un an, j'ai fait que ça, quoi. J'ai décidé de faire une classe qui n'était pas géniale scolairement, pour avoir du temps, pour que pas passer mon temps à faire des maths et à bosser des trucs qui me dépassaient et pour lesquels je mettais beaucoup trop de temps. Et par contre, je faisais du piano pendant un an à fond. J'ai su lire la musique cette année-là, je bossais des partitions et puis après, j'ai oublié. Mais voilà. Donc là, j'ai rattrapé ça beaucoup. Et puis moi, j'y crois vachement plutôt à mes enfants. Je ne les ai pas mis un instrument.
Et l'acte de chanter,
tu les as obligés à faire du foot quand même.
Même pas.
C'est les forces un peu.
Venu, j'ai forcé.
Tu dis, je suis fier de vous. Si vous faites du foot, je suis fier de vous, les enfants.
Je leur achète des chaussures.
Si tu n'es pas le prochain Kylian Mbappé, je vais être déçu. C'est ça, une fois,
c'est pas forcé, ça.
J'ai surpris un peu ce dialogue.
C'est la communication non violente, il n'exprime que son émotion.
Souchon m'a dit, si jamais ton fils aîné devient un footballeur très connu, qui. J'ai une petite pensée pour tonton Alain, qui fasse un petit virement comme ça régulièrement. C'était drôle. Mais non, après, ce déclic-là, il est venu comme ça, de vouloir jouer du piano pour jouer des chansons des autres, pour jouer dans les soirées, pour ça me bottait, quoi. Et j'adorais, j'ai parti sur ce truc-là, sur le truc de Strasbourg, c'est qu'à un moment donné, il y a une scène de karaoké, là, c'est la fin des années 90, qui sont des années assez pourries en chansons françaises. Parce que t'as pas d'apparition, en fait. Les gens qui cartonnent en chanson dans les années 90, c'est Cabrel, Souchon... Tu dis quoi ?
C'est passé dans le rap, en fait.
Ou c'est Sandy Valentino.
Ouais, mais c'est aussi non, beaucoup... C'est
Sandy Valentino, Boys pourquoi Band, tout ça n'arrive qu'à moi ?
Comédie musicale, oui, voilà. Donc un truc très froid.
À part quoi. Zazie...
Zazie Obispo, c'est les deux figures qui apparaissent.
Ouais. Sinon, sinon, après, c'est dans le rap, j'ai l'impression. T'as Solar...
Dans le rap, évidemment, et puis t'as... Bon, c'est un peu... c'est pas génial, quoi. Et en tout cas, c'est très froid. La production est très. Est pas du tout simple, sensible, de gens juste avec un piano et machin. Pas du tout. Donc, c'est même le contraire un peu de ça. Et là, dans ce film, il y a un moment, ils font un karaoké. Et c'est une bande, tu vois, ils ont 20 ans, ils sont au TNS, qui était l'école à laquelle on voulait tous aller. Et on se disait, putain, si on va là-bas, on va être des acteurs super connus. Et on les voit chanter. On voit une fille qui chante, je crois, La Bohème. D'Aznavour, très simplement, tu vois, sa bande karaoké, ça doit être juste un piano, elle chante ça, et dans la scène, tu vois tous ses potes qui sont très émus par le fait qu'elle chante ça, et je m'étais dit, ah ouais, en fait, un truc très simple où tu racontes, ce format-là de la chanson, c'est un format que j'aime bien parce qu'il est très régulièrement démodé, c'est-à-dire que tu dirais, non, bah là, c'est plus du tout, maintenant, c'est pas ça, et puis ça revient, c'est une sorte de serpent de mer parce que le côté trois couplets, trois refrains, c'est un peu en nous, c'est comme le couple, hein, selon moi. C'est-à-dire que le couple, des fois, tu te dis, ouais, en fait, le couple, ça fait chier, on va essayer autre chose, de vivre à quatre, ou alors de vivre tout seul. Et puis, en fait, à un moment donné, tu y reviens toujours un peu, parce que c'est quand même sympa, quoi, une chanson et un couple.
En fait, j'ai l'impression que les morceaux piano-voix, on va dire, à ce moment-là, c'est l'exception dans l'album. Tu le mets, tu sais, les chanteurs... vont faire des trucs plus... il y a plein d'instruments, c'est rock, etc. Puis mon piano-voix, ça va être le morceau caché ou le morceau rappel,
ah oui,
le
oui,
morceau
ça, c'est outro. Vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Mais de faire un album entier, parce qu'il me semble que le premier que tu fais, s'il y a des cordes...
Ouais, mentalement les gens ont l'impression que c'est un album piano-voix. Il y a un quatuor à cordes très souvent. Par exemple, il n'y a aucune rythmique, ce qui ne se fait pas normalement. Ouais. Tu vois, aucune rythmique quand même.
C'est vrai là, qu'à ce moment-là, même... chez gens de la nouvelle scène française, la nouvelle chanson française, t'es un des seuls qui fait du piano-voix, genre du Scheller, quoi.
Oui, oui.
Pas dans le sens, ça ressemble à Scheller, mais dans le sens...
Mais tu vois, je le voyais vachement en promo, parce que...
Un homme heureux, tout le temps, plus des cordes, quoi, en termes de positionnement.
Même souvent pas de cordes, et quand tu faisais des émissions, tu disais, bon, on vient, mais on fait piano-voix et en direct. Des fois, ça passait, mais la plupart du temps, je me retrouvais à être le seul mec piano-voix de l'émission, et aux répétitions, tu sens quand même que les gens se demandent si ça marche ou pas. Et après, une fois que l'émission se fait, finalement, comme t'es le seul mec qui est comme ça,
ouais, tu deviens le seul morceau de l'album.
Ça passe très bien et tout le monde te dit « Ah, mais c'était super ce moment-là. » Bon, ok, très bien. Et tu vois les gens changer. Mais il y a eu aussi des situations, au sein d'une fête de la musique, au pied de la Tour Eiffel, donc tu sais, la grosse kermesse là, sur France 2, je pense. Et on demande, on dit, bah oui, on vient, mais je chante en direct. Tout était sur bande. Les voix étaient en direct, mais musicalement, c'était sur bande. Et alors, on dit, ah non, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Donc voilà. Donc on dit, bon, ouais, ok, d'accord, on le fait. Et en fait, je joue tout seul au piano. Je sais pas combien c'est énorme, quoi. C'est beaucoup plus que
les. 80 000 personnes.
Oui, enfin. Et en fait, ils n'ont pas branché la façade. Alors, je ne vais pas dire que c'était mal intentionné, mais c'est juste que. Comme c'était le seul moment qui
la
était
façade,
direct,
c'est le son qui va devant le public.
Et donc, en fait, tu as 80 000 personnes qui sifflent pendant 3 minutes le truc en direct parce qu'ils ont pas de son du tout et qu'il y a un mec et donc ça c'était je suis sorti de scène et il y a les techniciens qui me tapaient sur l'épaule un peu genre on est avec toi quoi et
en plus toi à ce moment-là tu sais pas qu'il y a pas de façade donc tu
assez vite j'ai quand même senti que enfin si j'ai vu
au départ tu dis il me siffle
si tu l'entends
car je suis Vincent Dallaire
tu l'entends parce que moi je suis pas haut-lien j'ai pas de les retours dans les oreilles
ah t'entends que t'as que ton retour tu sens que ça y a rien qui part
attends pourquoi ils ont pas mis la musique en façade
bah en fait c'était le seul truc qui était pas enregistré de la soirée. Donc,
ils ont oublié de brancher un câble.
Un bouton, ou de... Et là, ouais, donc tu sors de scène, t'as tout le monde qui te regarde, genre, si tu veux une tisane, je vais t'en donner une.
Je propose qu'on fasse une petite pause multi-blind test.
Allez,
on fait un petit multi-blind test. Tu connais le concept du multi-blind test ?
Pas du tout.
Plein de chansons en même temps, il faut deviner les chansons. Plus voilà. Tu
je
devines,
je mets 6 chansons en même temps, et quand tu en trouves une, je l'enlève, et ainsi de suite.
Ah, c'est bien. Parking des Anges.
Il y a le parking des Anges de Marc Lavoine.
Ouais, il était tout seul au début, non ? Il était un peu tout seul.
Oh, l'autre
est. Ouais, il y en a un autre qui était encore plus tout seul.
Putain.
Non, en même temps, c'est vrai que si tu connais le morceau, le. Tu l'as.
Ouais, mais
putain, je suis déçu. 1-0 pour Vincent Delerme.
Normalement, c'est 5-0. Parce que, tu sais,
ouais.
Plus tu trouves tôt, plus t'as de
ouais,
points.
Exactement.
Mais vu qu'on ne fait pas les scores.
C'est vrai que la levée
personne
de
violon
est
gagne,
très,
personne
la levée
ne
gagne, personne ne. Très marquante.
Ace of Base,
il y a.
Oh,
Base.
C'était All That She Wants.
All That She Wants.
Ouais, exactement.
Qui était les booms où j'étais en chemise à carreaux avec un petit t-shirt en dessous et un jean Levi's 501 et des Caterpillar. Je n'avais pas des Caterpillar, j'avais des contrefaçons de Caterpillar, j'avais des Caterpillar.
C'était des vraies chenilles que t'avais, toi.
Des cachères.
J'avais des vrais
des vraies grosses chenilles. En...
Girls and Boys.
Il y a Girls and Boys de Blur.
Exactement.
Donc, quand on a 4, on gagne.
Je sais pas, il n'y a pas de gagne. Tu veux gagner quoi ? Tu veux gagner quoi ?
Je vais du Zodiac à 800
euros. Non. Oui, si tu veux, je te l'offre avec plaisir. Allez, on y retourne.
Ultra moderne solitude.
Il y a ultra moderne solitude et tu t'en veux de pas l'avoir trouvé plus tôt.
Non mais là je me dis il m'a fait un truc gentil quoi tu vois il a mis un
coaché.
Un petit Marc Lavoine.
Je suis scotché. Me scotch.
Sympa on est bien reçu.
Bah oui tu m'as dit mets-moi des trucs.
Ah oui.
Mets-moi les chansons de mon album tu m'as dit voilà.
Oui, c'est...
voilà. J'ai mis UMS.
UMS. Exact.
Une anecdote que j'ai apprise dans le film de Vincent.
C'était les gens de la maison de disques qui disaient toujours UMS.
Ça veut dire quoi ?
Ultra moderne solitude. Okay. Là, tu vois que c'est l'album qui cartonne, quoi. Quand tu commences à dire.
Ah oui, d'accord. Il faut qu'on raccourcisse le nom de l'album d'Alain parce que on le dit trop souvent dans c'est des ça. Phrases comme c'est
ça,
un
c'était
hit.
C'était quoi ? C'était quand on était sur UMS, les attachés de presse.
C'est comme nous, on est dans UVM pour nous. Là.
On est dans UVM pour le coup.
Voilà. Et on faut pas oublier de faire la pub pour UBS.
Ah oui, c'est vrai qu'on d'ailleurs on est dans le spectacle UBS en ce moment en tournée avec Navo. Navo est en première partie.
Là, il faut dire les deux.
Ok, ça c'est mon nana. Ah oui, c'est bon. Alors, j'ai pas les chansons, putain. J'ai pas les titres, mais il y a la mi chatta cantare.
La chatta mi cantare.
L'italiano. La chatta a mi cantare. Ouais, c'est mi cantare qui propose d'ailleurs sa chatte.
Ça s'appelle l'italiano.
Ouais, il y avait
de tout coup
Annapurna, Annaruna, Panaganugana.
C'est du latin.
Je connais pas ça.
Un groupe qui chante en latin, il y en a pas.
Voxalis. Je sais pas, c'était vraiment ça peut être n'importe quoi.
C'était Hera.
Hera, mais c'est que.
Oh non.
J'ai grandi au conservatoire de Reims et quand il y avait une formation, c'était toujours une formation en latin, genre dies aere, le tu sais de Chalon-sur-Saône qui vient faire un concert. Tu vois, c'est vraiment
ça va, c'était un bon jeu. Alors c'est moi qui ai gagné, vous avez perdu.
Oui, ouais. C'est Navo qui a gagné.
En fait, le but du jeu c'était d'amuser les autres.
Exactement.
Je vous ai amusé, donc j'ai gagné.
On s'est bien amusé. J'ai une question à Sandalerme. Pourquoi cette voix il y a 20 ans ?
Eh bien, je crois.
Ouais, qu'est-ce qu'on pense de la parce que dès, je précise,
ouais.
Le premier album,
oui.
Dès la tournée,
oui.
Tu n'as plus cette même voix.
cette voix qui est un peu imitable et d'ailleurs qui t'a fait un gros coup de pub mine de rien parce que t'es devenu hyper imité par tous les imitateurs.
Un petit côté Brigitte Bardot.
C'est très identifiable.
Tu vois, ce truc un peu
en fait,
chelou.
Je crois qu'au début, je voulais un peu imiter Miossec parce que quand j'étais à Fac de Rouen, c'est le mec qui est un peu apparu, qui était un peu le mec qu'on aimait bien et tout. Et il avait un peu un truc comme ça, tu vois. Et je scandais un peu comme ça.
Ça, et les verbes du premier groupe, c'était les deux trucs.
Ah oui, c'est vrai, ces albums.
Et commençaient tous ces morceaux par Nous sommes.
Non, mais là, tu vois, je bosse en ce moment sur un truc comme l'an prochain, c'est les 20 ans du premier disque. Je bosse sur un projet où on met des trucs de l'époque, où j'écris aussi des choses qui racontent un peu ce qui s'est passé. Et donc, j'ai mis à réécouter des vieux concerts. Et quand même, si même sur scène.
Beaucoup moins.
Oui, moins. Mais...
Enfin, en tout cas, la captation.
Ouais.
Moi, à l'époque, j'étais dans ma banlieue, vrai. J'allais pas te voir sur scène. J'avais un sort boulevard Voltaire. Ouais.
Le thalassa de tes parents me hante. Ça me hante.
C'est vrai que c'était dingue. En fait, je voyais bien que c'était bizarre. Comme
mais moi, j'aimais bien cette voix. Ce qui m'a surpris, c'est qu'elle a disparu pour toujours après.
Ouais, bah parce qu'en fait.
C'est les jeunes artistes.
J'avais peut-être un instinct aussi de vouloir me faire remarquer. Ouais. C'est possible.
Ouais.
Et puis aussi, un truc, c'est que j'avais pas chanté tant que ça sur scène quand j'ai commencé. En studio, pas du tout, parce que je faisais mes chansons dans mon coin. Et donc, au bout d'un moment, tu fais une année de tournée, bah, tu chantes tous les soirs, donc tu vas un peu plus vite. Enfin. Je sais pas, ça s'est un peu gommé, ouais. Ouais. Et puis j'avais peur de chanter faux aussi. C'est aussi pour ça que je prenais les notes par en dessous, parce que moi j'étais pas technicien, machin.
Comme Renaud.
Ouais, tu vois.
Il en prend 19 des fois en dessous.
Tu dis du coup, quelque part là-dedans, il y aura la bonne note.
Oui, c'est ça. Si on fait une analyse. Et d'ailleurs, je me souviens, la fille qui a fait le songbook, le premier relevé de partition qui correspond au premier album, pour les gens qui jouent chez eux, tu relèves évidemment la partie musicale, et puis tu as une ligne où tu mets la ligne du chant.
Ah oui.
Et des fois, elle me disait, mais là, c'est quoi ce que tu chantes? C'est cette note-là ou cette note-là?
Ah oui, d'accord.
Grégorien.
C'est quoi ta salle préférée en France? Ou en Suisse? Parce que je sais qu'en Suisse, t'en as une que t'aimes beaucoup aussi.
En Suisse? Ah oui, en Suisse, bah, c'était... Suisse, c'est pas vraiment... C'est un souvenir très marquant.
Les chaises oranges.
Ah oui. Ah non, je croyais que tu parlais du Paléo de Nyon.
Oui, il y a ça. Ouais.
Parce que chaises oranges, ça, c'est Morges.
Morge.
C'est des beaux fauteuils, ça. Non, en France, c'est la Cigale, à Paris.
La Cigale, ouais.
L'Européen, quand même, qui est plutôt une salle de stand-up maintenant, mais que j'ai adoré faire quand j'ai commencé.
L'Européen, tu dis ?
Ouais, l'Européen.
Que t'as fait il n'y a pas longtemps, pendant une minute.
Ouais. C'est vrai, il est venu dans 60, on regarde tout de suite.
J'ai fait aussi le truc dans le noir.
C'est vrai.
Je n'arrête pas de passer à l'Européen.
Ça, c'était pas capté. À moins que
grâce à vous.
À moins que tu t'étais la version
France
Inter.
C'était à la radio.
C'était la version France Inter.
France Inter.
Et
noir qui était un spectacle dans le noir total et vous avez fait la diffusion sur France Inter. Ouais. Donc,
et c'est chaud en fait de jouer. En fait, c'est pas chaud de jouer du piano dans le noir. C'est chaud d'être face au micro en jouant du piano dans le noir.
Et ouais, c'est à ça qu'on pense pas. Où est le micro?
C'est ça, exactement.
Et c'est un peu ridicule parce que si tu filmes en infrarouge, tu rampes jusqu'au piano, quoi. Parce que là, tu as peur de te péter la gueule tout le temps.
Vincent, t'es fan de photos ?
Ben oui.
T'es fan de photos ?
Évidemment.
T'es photographe. Photographe
même.
Réalisateur. Tu aimes l'image. Tu es un grand fan de Truffaut.
Oui.
Tu aimes le cinéma, le vrai, la nouvelle vague.
Le vrai, je sais
le
pas.
Le vrai, dis donc.
Faites attention.
Oui, non.
Moi, j'aime bien Truffaut.
Oui, j'ai dit ça. Je te propose un jeu qui s'appelle.
Un peu réactionnaire.
Ça s'appelle Pourquoi ces photos sont historiques ?
Ah oui.
Voilà.
Jouons.
C'est parti. Les gens qui nous écoutent en podcast, je vais décrire les photos, rassurez-vous. Je ne vais pas vous laisser en carafe dans votre voiture.
Et Bruno, il joue aussi ou il y a que moi ?
Il joue avec nous aussi. Quelle est cette photo et pourquoi elle est historique ? Alors, c'est une vieille photo, noir et blanc. On aperçoit un homme habillé vraiment à l'ancienne avec une veste un peu... Bon, c'est pas... Il n'a pas une veste avec un grand col, il a une chemise, j'ai l'impression d'être Edouard Baird. Bon, là, il est en train de couper un peu au déballé. Il fait la tête sur la photo, il fait la gueule et pourtant, cette photo est historique. Pourquoi ?
Ça ressemble un peu à... Enfin, le mec, il a un truc un peu Chateaubriand 19e, mais c'est plutôt un groupe...
ça n'est pas un mec connu.
Fin des années 70, début 80.
Mais... Moi, j'ai une idée. Vas-y. Je propose que c'est la première photo.
C'est non, pas la première photo.
C'est pas possible, il a une tête vachement moderne.
Ce n'est pas la première photo. Pour toi, pour toi, c'est dans les années 80.
Je peux pas savoir.
Ouais, non, non, c'est vrai.
Il y a pas de photo avant. Comment tu sais la tête qu'ils avaient avant?
La coiffure, la coiffure. Oui, c'est vrai.
La coiffure, là, c'est clair qu'on est dans un truc. Pas coiffé, peigné à l'ancienne.
Moi, j'ai vu des photos des mecs avant que l'invention de la photo, ils n'avaient pas cette tête. C'est ça qu'est en train de dire Vincent. Moi, je trouve que ce n'est pas très logique.
Comme Nicolas Sirkis. Écoute, non, je ne sais pas. Il a joué avec quelqu'un très connu.
C'est pas quelqu'un de connu.
Non.
C'est pas quelqu'un de connu, mais il a fait quelque chose de fou.
Bah, cette photo.
Ah, c'est le premier autoportrait.
C'est le premier selfie.
C'est le premier selfie. Enfin, c'est un des premiers selfies de l'humanité en 1800.
Putain.
Un mec qui s'appelle Roberto Cornelius qui a fait cette
photo.
Et c'est hyper facile, du coup, vu que c'était des longues poses. Incroyable. Il a appuyé sur le bouton et après, il s'est...
La modernité du visage, du style. Incroyable. Bon, bah
et
voilà.
On peut lire hashtag la vie, écoute, il avait vraiment fait un selfie avec ça.
No make-up, il a écrit, c'est ouf.
No. Wake up like this.
No filter, no make-up. Il a mis.
Une autre photo.
Le premier selfie, c'est fou.
Alors, on voit deux hommes. Il y en a un qui tire sur un autre.
Oui.
C'est une photo en noir et blanc encore. Et ils ont des petits... Il y a une fumée, donc le mec a tiré sur un gars.
Ils ont des gilets pare-balles.
Ils ont des gilets pare-balles.
Il y a un vélo derrière.
C'est le premier gilet pare-balles.
C'est le test du premier gilet pare-balles.
Oh, pas mal.
Un vrai travail d'équipe, Vincent.
Putain, et franchement, là, faut être cool quand même pour être le mec qui accepte de faire le test.
Le tout premier.
Allez, ouais, écoute, allez, on essaye.
T'as testé sur du bois ou un truc? Non, c'est sur toi.
Quelle est cette photo? On voit un magasin sur lequel il y a marqué une vitrine. C'est en noir et blanc. On voit une vitrine de ce marqué Chocolate. Et une ruée d'enfants et de gens vont dans ce magasin. Pourquoi?
Premier Kinder Surprise?
Non.
Le premier Nutella?
Mm-mm.
C'est pas un premier...
On voit une ruée d'enfants. Vraiment, tous les gens se ruent dans le magasin. C'est une sorte de magasin de sucreries.
C'est Rihanna qui tient la boutique.
C'est Rihanna qui tient la boutique en 1950, exactement.
Est-ce que c'est le premier quelque chose? Premier M&M's?
Non. Y a pas, c'est pas un produit.
Ah, c'est pas un produit. Ah, c'est pour des images?
C'est pas des images, mais ça caractérise un truc qu'on n'a jamais connu, nous. Et c'est assez fou, en fait, de se dire que c'était comme ça.
Il y a des points, un système de...
C'est de l'arrivée.
Tu ramènes un truc, c'est consigné.
Ah, c'est des tickets de rationnement?
Ticket de rationnement, ouais. Ah. C'est en 1955, à Londres. C'est la fin des tickets de rationnement. Et du coup, les enfants pouvaient aller acheter des sucreries.
C'est la fin des tickets de rationnement. Comme quand t'as la monnaie à la fin du voyage.
Parce que les tickets de rationnement, pour expliquer, c'est vraiment, tout était rationné. Tu n'avais pas le droit d'acheter plus de temps. Aujourd'hui, on est là, genre, je prends un pack de lait. Tu vois, là, maintenant, c'était, non, t'as le droit à une
brique. Il y avait un QR code et tout, c'était hyper relou.
Ouais. petite photo assez. Alors, elle est assez facile, mais. C'est parce que je trouve que ce qui s'est échangé, si c'est vrai, est très charmant. Qu'est-ce qu'on voit à l'image? On voit deux hommes très très bien habillés en costard.
Albert et Charles.
On est à Charles, donc alors on a Albert Einstein, on le reconnaît très très bien. Et la deuxième personne à côté, c'est?
Bien qu'il ne tire pas la langue, Charlie Chaplin.
C'est Charlie
c'est
Chaplin.
Marrant, on dirait un autre.
Et Jean Reno.
Il y a un fantôme là.
Ouais, Jean Reno dans le.
Et il y a un fantôme. Il y a Jean Reno derrière.
C'est Léon, il est prêt à tuer.
C'est vrai qu'il y a Jean Reno derrière, ouais, exactement.
Alors, donc on a Chaplin et Einstein.
Et qui donc ont échangé des...
Alors, qu'est-ce que c'est que cette photo? Qu'est-ce qui se passe à cette photo?
Ils sont en train de regarder, genre, le dictateur?
Oui.
Ils sont dans un bordel. Non, c'est pas vrai. Ils sont en train de regarder des gens bouillaves. Non, ils se rencontrent pour la première fois. Qu'est-ce qui se passe?
C'est la naissance de Trump? Une maternité?
C'est vrai que c'est très précis.
C'est lié au dictateur?
Il a l'air assez...
Non, c'est pas lié au dictateur.
Il a l'air assez vieux, déjà.
Je sais pas si c'est lié au dictateur, mais en tout cas...
On est dans les années 60. J'ai début des années, non?
Pas la date, mais on n'est pas en 1990, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de Schwarzenegger.
Je pense que ça va pas être facile. Attendez, il a son chapeau.
Bon, ils ont l'air d'être bien habillés, genre ils vont récupérer un prix ou quelque chose, non?
Oui, mais alors, c'est pas la situation, ça à l'arrière, c'est pas très intéressant. C'est qu'est-ce qu'ils se sont dit et qu'est-ce que c'était comme moment?
Le nucléaire, c'est pourri.
Le nucléaire, c'est pourri, exactement.
C'est mal.
Albert Einstein. Là, je propose qu'on fasse un print. Le nucléaire, c'est pourri. Albert Einstein.
Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On parlait de politique.
Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire?
Ils se sont échangés. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Albert Einstein est un grand fan de Charlie Chaplin. Et il lui a dit, c'est incroyable, vous ne dites pas un mot et tout le monde vous comprend et vous êtes extrêmement populaire pour ça. Ce à quoi Charlie Chaplin a répondu, mais vous, c'est encore plus fou parce que vous êtes extrêmement populaire. Vous dites plein de trucs et personne ne vous comprend.
Pas mal.
Stylé. C'est faux, complètement faux.
C'est écrit. Non, ça a été écrit par justement Annie Cordy, cette phrase. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et.
Annie Cordy, elle est vraiment sortie random de ton cerveau. Ça.
Oui. Tata Yo-Yo. Non, elle est pas random. Ah, non. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit la pyramide de Gizeh.
Oui.
On voit le Sphinx. Et on voit un musicien noir avec une trompette et une dame assise qui l'écoute. Qu'est-ce que c'est?
Elle est bonne, la photo, par ailleurs.
C'est Armstrong?
C'est Armstrong, exactement. Vous l'avez reconnu.
Qui se marie? Qui fait sa demande en mariage?
C'est une chanteuse?
Non, c'est sa femme. J'ai tout lâché, ça y est. Oui. En fait, c'est même pas un truc anecdotique, mais je trouvais ça assez intéressant.
C'est leur voyage de noces.
Où ils se font un petit. Voilà, il lui a fait un petit concert privé.
Juste un kiff.
Ouais, c'est juste un kiff. Ça s'appelle juste un kiff.
Il nous a montré juste une photo,
une photo que je trouvais sympa.
Elle est jolie, elle est bien.
La femme, c'est trop joli, la position. Les couleurs des vêtements.
Vous êtes photographe, comment on analyse cette photo? Est-ce que ces photos-là vous parlent?
Non, je suis pas bon. Tu vois, les mecs qui analysent, ils disent oui, mais il y a une courbe, il y a une.
Mais oui, c'est ça, ils sont là, regardez, on a deux tiers, un tiers. Ouais. Ici, c'est le nombre d'or.
Oui, mais
ici,
des fois, il faut savoir fermer sa gueule, les spécialistes.
C'est le petit charme de
c'est comme si le sphinx mystérieux regardait Louis en même temps que sa femme qui le regarde. Ici, c'est magnifique, la trompette.
Et le vert du gilet qui est formidable. Le vert du gilet.
Les contrastes qui ne sont pas trop agressifs. Il n'y a pas de vignettage, on pense que ça a été recadré.
Petit jeu des photos historiques, est-ce que ça t'a
terminé?
Oui, c'est terminé.
Une dernière.
Photo sublime.
Il n'y a même pas la photo.
Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit des. C'est une très belle photo, justement. Juste la montre, parce qu'elle n'est pas compliquée à deviner.
Tomber.
Des gardes de la reine.
C'est les gardes de la reine d'Angleterre.
Et il tombe là, ça, il y en a un qui tombe.
Il y en a un au premier plan qui a l'air de tomber.
Mm-hmm. Il tombe vraiment ou il est en train de mourir?
Il n'est pas en train de mourir, non.
Il a un malaise. Tellement ça fait longtemps qu'il est.
Exactement.
Ah, honoré sa putain de reine. C'est pour ça
qu'il est resté debout au soleil trop longtemps avec un chapeau bien trop grand.
C'était bien.
Et il s'est pété la gueule, voilà.
Putain.
C'est étonnant.
Avec les autres qui disent.
Et le photographe s'est dit, un mec qui a besoin d'aide, prenons une photo.
Ouais. Mais en même temps, au moment où il prend la photo.
Ça va, les gars, arrêtez de critiquer. Vous êtes l'avocat du diable?
Moi, oui. Et quand tu regardes bien, le diable n'a pas fait que des trucs nuls, puisque c'est quand même lui qui a dit à Ève, vas-y, mange la pomme. Et si elle ne l'avait pas mangée, on ne pourrait pas être aussi misogyne et donc avoir tous les privilèges qu'on a.
Pour le coup, c'est assez vrai.
Donc, merci le diable.
C'est vrai.
En tout cas,
fin de démonstration.
Très belle. C'était bien de finir là-dessus quand même.
Ça vous a plu ou pas?
Ah oui, énormément.
C'est joli, hein. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné, Vincent Delerme?
Tu t'es frappé quand même au visage.
Je dirais un truc que disait Rochefort, qui disait « on prend jamais de risques à prendre des risques ». Et ça, c'était pas mal, ce truc-là. Parce que lui, il disait ça pour tous les films qu'il a fait. Il a fait plein de premiers films à la fin de sa vie, ou des trucs où on lui disait « mais attendez...
Vous êtes Jean Rochefort.
Vous savez pas du tout où vous allez, alors que vous avez quand même une image à... on prend jamais de risques à prendre des risques, parce que si c'est complètement nul... on pourra pas m'en vouloir, quoi, puisque justement j'ai pris un risque et c'est bien son idée.
Le dernier film dans lequel il a tourné, c'est lequel, tu sais?
Ouais, c'est particulier, parce que son vrai film de cinéma, c'est Floride. Mais après, son dernier tournage, c'était quoi un niveau au-dessus.
Astérix.
C'était quoi?
C'était chez Bibi.
La chanteuse, tout doucement.
Et tout, et il l'adorait depuis longtemps. Et c'est
trop plaisir. Je ne savais pas.
Bah en fait, c'est parce que...
Dernier tournage est dans le film de Vincent Delerme.
Mais je ne sais pas si c'est tout le monde.
C'était un moment où il voulait plus tourner. Et puis du coup, je lui avais quand même... Et pendant longtemps, c'est vraiment lui qui me poussait, qui me disait, ah, Vincent, il faut que vous fassiez votre film, c'est vraiment important. Le truc qu'il disait à tout le monde, mais moi je me disais, ah putain, c'est quand même sympa, c'est Jean Rochefort qui te dit ça. Et puis du coup, le jour où j'ai fait mon film, je l'ai appelé, je dis, Jean, ça y est, je sais que vous avez annoncé que vous vous arrêtiez, mais je vous le dis quand même, je vais faire mon film. Il me dit, non, mais effectivement, j'ai arrêté et tout ça. Et puis après, il avait rappelé en disant, bon, en fait, j'aimerais bien faire une journée de tournage.
En fait, c'est payé combien?
Ma dernière journée de tournage avec vous.
En fait, ouais, combien c'est payé?
C'était pas énorme.
Sous ton prisme, comment tu peux décrire Jean Rochefort?
C'est pas simple, parce que il a déjà. Ce qui est curieux, c'est que c'est un mec qui est devenu de plus en plus hype au fur et à mesure de sa vie. C'est quand même assez rare que plus tu avances en âge, plus tout le monde t'aime. Quoi.
Quand il a commenté les chevaux au JO, par exemple, ouais, c'était juste magistral, ça.
Parcours de 5 km 500, deviendra un golf par la suite.
Oui, oh ben ça, pour le moment, on s'en tape.
Sommes-nous dans la réalité? Sommes-nous dans la fiction? Est-ce la vraie vie? Est-ce un vrai cheval? Est-ce une vraie cavalière?
Comme c'est dur d'être commentateur, je ne le ferai plus. Oh, oh quel bonheur!
Les à côté ont vachement joué. Entre le moment où il a fait Winnie l'ourson de Disney Channel.
Ouais, pour moi, c'était 80. Le mec de Winnie l'ourson. Hein. Ouais, c'est ma génération. Je regardais Winnie l'ourson, c'était beaucoup ça. Choix, c'est bonjour les enfants.
Et lui, il était mal avec ce truc-là. Il disait, sa femme, il disait, ça y est, je suis terminé. Maintenant, je fais Winnie l'ourson. Ma carrière est finie. Puis après, il a eu cette époque des films de Patrice Lecomte qui a. Il a fait quand même 2-3 de suite qui ont vraiment modifié complètement son image et qui l'ont rendu super connecté à son époque. Quoi. C'était assez impressionnant.
Les Grands Ducs.
Ouais, Les Grands Ducs, Ridicule.
Les Grands Ducs, allez voir Les Grands Ducs, c'est un très bon film. Ouais. Très bonne comédie.
Et puis voilà, puis après, lui c'était quand même un mec qui avait une force qui était de toujours être en éveil, de s'intéresser beaucoup aux gens autour de lui, de poser des questions. Moi je l'ai vu, tu vois, sur un tournage de clip, sur un plateau, et il allait parler avec tout le monde, il aimait bien plaire aussi, tu vois, donc il savait qu'en faisant ça, ça faisait plaisir à tout le monde, mais c'était pas que ça, quoi. C'était une vraie curiosité, ça l'intéressait. Et jusqu'au bout, ce truc-là, donc ça c'était chouette.
Et donc, il n'y a pas de risque à prendre de risque.
Il n'y a pas de risque à prendre de risque, c'est pas mal, parce que du coup, ça détend un peu, quoi, comme phrase.
Et qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ?
Pour aller mieux, écoute, ça passe quand même souvent par la musique pour moi. Donc, c'est souvent, je me mets le disque qui me fait envie. Ça peut être aussi régulièrement mettre un disque qui me rappelle un moment que j'ai bien aimé. Où j'ai des chansons, ouais, qui sont pas forcément des chansons très super joyeuses, mais qui sont... tu vois, je pense à une chanson de Jean-Louis Murat qui s'appelle Montagne, qui est quand même pas du tout joyeuse, et que j'aimais bien mettre quand j'étais étudiant, soit quand j'étais totalement déprimé, soit quand j'étais totalement super heureux. Et c'est une chanson qui continue de... Parce qu'en fait, je l'ai... j'ai insufflé tous mes trucs dedans à l'époque. Elle continue de me faire cet effet-là. Voilà.
Donc, coup de mou.
Voilà,
hop,
coup de mou,
Montagne
de Jean-Louis Murat. Je ne sais pas si ça marchera sur les autres, mais ça marche sur moi. Et puis après, non, j'aime bien aussi des trucs très cons, des trucs d'humour. Voir Poire et Serreau.
Poire et Serreau, mais oui, c'est génial.
Ça me fait passer à autre chose. C'est très différent comme projet de Jean-Louis Murat.
Les inventeurs du café-théâtre français, les inventeurs du comic-hall.
Ouais, d'un truc absurde, mais finalement, souvent, je me dis finalement, l'absurde pour l'absurde, ça peut être un peu chiant. C'est l'absurde à froid, tu vois. Mais là, il y a un tel pouvoir comique de Serreau que...
Et est-ce que t'as un artiste à recommander ?
Bah, plein. Mais
on devait venir avec Aloïse Sauvage à la base.
Bah oui.
Et malheureusement, elle a un tournage et ça s'est mal goupillé. Du coup, on la salue très fort. On la recevra plus tard.
Très fort, tu la salues. Genre, salut !
Non, limite.
Soit tu l'embrasses très fort.
On l'embrasse, on la salue très chaleureusement.
Ok, c'est bien.
Ah, bah oui, voilà. Il faudra qu'elle vienne parce qu'elle était trop contente de venir.
Et ben elle viendra, c'est sûr, on va y arriver. C'est un rendez-vous manqué. Mais
de nuit, tout ça.
Je sais. Cette émission, on essaie de la tourner, de faire un maximum d'émissions justement pour pouvoir. D'avoir en proposer un maximum aux gens, mais
ah oui,
il y aura d'autres moments. On va faire des trucs, en tout cas. C'est
il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas du tout connu.
Ce que tu veux.
Parce qu'il y a un.
Ça peut être un compte TikTok. Hein. Tu sais que t'es à fond TikTok, Vincent.
J'ai du mal à décrocher, oui. On est quel jour ? On est au mois d'octobre.
On est septembre. Là. Ouais, on est fin 2021.
Ah, et bien il y a l'album instrumental d'Albin de la Simone qui est sorti, qui est très très bon.
De
Albin de la Simone.
Albin de la Simone, album instrumental.
À la base.
Et ça, il fait un album que de musique ?
Ouais, que de musique, il n'y a pas un pet de sa voix. Et ça rejoint un truc, c'est un pote à moi, Albin. Et souvent, on se dit, c'est marrant parce que quand tu chantes, en français en plus, t'attires vachement l'attention sur ton sujet, sur ce que tu racontes. Et puis la musique, du coup, elle passe un peu derrière, quoi. Et là, je pense qu'il en avait. Il en avait marre. Il a voulu faire entendre sa musique et c'est hyper beau. Ça s'appelle Happy End.
Happy End.
Donc les gens qui aiment bien Albin de la Simone, mais à qui on dit non, mais c'est bien, mais j'aime pas sa voix.
Voilà, c'est leur moment.
C'est maintenant.
C'est le
moment. Ah, alors voilà, écoute celui-là.
C'est leur projet. Navo, t'as quelque chose à recommander ?
Non.
Plus
non,
pas.
Ça y est, vu qu'on a, c'est genre la septième émission
D'accord,
qu'on enregistre. Voilà.
Et
à
bien
part,
moi, je
redire des trains à travers la plaine parce que.
Le podcast
de
Ambroise
Delerme.
Ouais,
je sais qu'Ambroise Carminati est fan de.
Ambroise Carminati.
Il fait un podcast qui s'appelle Des trains à travers la plaine. Tu te doutes bien d'où vient le titre.
D'où vient le titre d'ailleurs, du coup ?
Des trains à travers la plaine, c'est quoi ?
C'est Bachoum.
Ah, bah oui. C'est ça.
La nuit, je mens.
Ah oui, je prends des trains à travers la plaine, bien sûr. Et vous avez un conseil.
Et donc, c'est extrait de bouquin.
À donner, je sens.
Je sais pas si tu l'as. T'as déjà écouté ce podcast, mais c'est extrait de bouquin, extrait de film et chansons françaises autour d'un thème.
Ah.
Donc c'est très très bien.
Je recommande Vantavision. WandaVision, qui est un Marvel qu'on peut trouver, je crois, sur Disney+.
Ah, Wanda, Vision. Comme la Vision.
Ouais. Et WandaVision, ouais. Et je trouve que c'est une vraie prise de risque. On parlait des risques. Vraie prise de risque de mise en scène, de narration. Et je trouve que le fond, ce que ça la forme, elle est exceptionnelle. Et le fond, sublime. Donc, quand le fond et la forme se rejoignent et qu'en plus, il y a des effets spéciaux et des gens qui volent dans le ciel avec des lasers et tout, comme les personnages bon. De Marvel, pour moi, là, t'as le fond, la forme, l'intelligence et t'as l'esthétique. Et je trouve que c'est une vraie... Accrochez-vous, les trois premiers épisodes sont pas compréhensibles du tout. Et après, ça... Et après, il faut attendre 8 épisodes encore. Mais après, seulement le 17e, c'est là où c'est pas très compréhensible du tout. Mais après, non, il y a que 6 épisodes et c'est génial. Si vous connaissez les Marvel, faut vous plonger dans cet univers des mini-séries de 6 épisodes qui sont en train de sortir. C'est top. Ah non, est-ce qu'on terminerait pas cette émission en musique, Vincent Delerme? Mais il y a un piano dans ce studio. Mais, vas-y, je t'en prie. Laisse d'abord divaguer et laisse-toi divaguer à des mélodies que tu aimes, des choses comme ça. Je sais que c'est super agréable de t'entendre jouer du piano. Et après, on terminera avec le générique d'un moment que t'as travaillé, il paraît.
Il nous a réservé cette petite surprise. Et ça me fait chaud au cœur. Et ça va faire chaud au cœur à Puzzle Bubble.
Je vais lancer une petite caméra aussi, comme ça on l'aura.
Gilly.
Hyper agréable d'entendre du Vincent Delerme. On espère que vous avez passé un bon moment. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, on a créé une bonne boutique.com. Vous pouvez acheter des petits trucs super sympas. Si vous voulez, si vous nous avez écouté en podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles. Si ça vous a plu, hein, sinon ça ne vous a plu, mettez pas 5 étoiles. Mais si vous commentez et tout, ça met en avant le programme et ça fait connaître des gens que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous aimez bien, en dépit de... Alors, même quand vous n'êtes pas là, ça fait parler de l'émission. Donc, merci beaucoup. On se quitte en chanson de Vincent Delerme. Je ne parle plus. Merci Vincent.
Merci messieurs.
C'était trop cool.
Merci Vincent. C'est fini l'émission ?
Comme tu veux.
Bah oui, je pense.
C'est terminé. À bientôt. Prenez soin de vous.
C'est pour faire de rigoler des gens.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.